13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, on parle de vous, de votre santé tous les jours entre midi et 13h. Le mardi, vous savez, Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour Nadia. Alors là, vous n'êtes pas encore avec nous parce qu'on vous a pas ouvert votre micro, mais là, c'est beaucoup mieux.
Je suis déjà censurée, je n'ai même pas commencé à parler.
Ouais, et encore, vous n'avez rien dit de mal.
Et voilà, vous voyez.
Mais peut-être que vous serez censurée en cours d'émission.
Je vais finir par croire en complot. Donc je disais bonjour Philippe, et bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme et sexologue, nous allons parler ce matin d'une émission que vous avez décidé d'appeler...
Que j'ai décidé d'appeler...
Alors, autoconservation des ovocytes, maternité différée ou défiance de l'horloge biologique.
Oui, en fait, il y a tellement de titres. Il y a même des titres aussi marrants. Procrastination médicalement assistée. Voilà, c'est un thème en tout cas qui
me passionne. Vous avez rebaptisé la PMA.
La PMA, voilà, procrastination médicalement assistée, dans le cas de la conservation des ovocytes.
C'est pas facile à dire. Notre invitée s'appelle Myriam Levin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cofondatrice de Chic Magazine, c'est un média en ligne engagé et féministe, qui souhaite renouveler les codes de la presse féminine, ça c'est vous.
C'est tout à fait moi.
Donc vous êtes la nouvelle génération.
Et pas n'importe quel féminisme. Un féminisme pluriel et intersectionnel. Donc inclusif.
Exactement.
C'est important de le souligner.
Je vous laisse entre vous les filles. Vous publiez « Et toi, tu t'y mets quand ?» chez Flammarion, un livre que vous avez choisi d'écrire à la première personne du singulier. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous faites dans votre magazine, vous parlez de vous.
Oui, et c'était pas évident.
Pourquoi ?
Parce que justement, quand on est journaliste, on a l'habitude de se cacher derrière ses interviews et ses articles. Enfin, sans forcément se cacher, mais on parle jamais de soi. On est professionnel de tendre le micro aux autres. Et voilà, passer de l'autre côté, c'était pas évident, mais c'était intéressant et nécessaire surtout. J'avais envie de donner un visage à ces statistiques.
Bien. Votre livre est un livre qui est donc soit sur la fertilité, la maternité ou la féminité ?
Je n'ai pas résolu. Bien, vous l'avez lu jusqu'au bout, parce que je pose cette question à la fin. Tout est lié, en fait.
Alors, je n'ai pas lu que la fin, hein, je vous rassure. J'ai aussi lu le début.
Super, j'adore.
Bien, alors, en quoi est-ce que cette question des ovocytes, on les congèle ou pas, est-elle encore si peu posée par les Françaises ?
Je pense qu'elle est si peu posée, tout simplement parce que les Françaises et les Français ne savent pas que ça existe, cette technique médicale de vitrifier les ovocytes en vue de les conserver pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et récente, en fait, on la pratique en France que depuis 2011, donc on n'a pas beaucoup de recul, et on la pratique que pour des cas de maladies graves portant atteinte à la fertilité. Et donc l'enjeu, c'est qu'en France, on n'a pas le droit d'auto-conserver ses ovocytes, c'est-à-dire, on y reviendra sur la pratique en elle-même. Donc on n'est pas au courant que ça existe, et en plus, on n'a pas le droit de le faire en France. Moi, j'ai dû aller en Espagne, donc évidemment, personne n'en parle.
À 20 ans, vous répondiez que vous vouliez des enfants, mais plus tard, quand vous seriez adulte. À 25 ans, vous répondiez que vous vouliez des enfants, mais plus tard, quand vous auriez un vrai boulot. À 30 ans, vous répondiez que vous vouliez un enfant, mais plus tard, quand vous auriez rencontré le bon mari. Et aujourd'hui, vous avez 35 ans et des poussières, et vous dites que le plus tard, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous attendez alors pour vous y mettre ?
Bah justement, pour m'y mettre à faire des enfants, j'attends toujours de les faire avec quelqu'un. Voilà, c'est mon côté sûrement un peu classique, mais finalement, on est assez nombreuses à penser comme ça. Et j'ai encore un peu de temps, en fait, mais il faut que je commence à me poser la question. Donc, en attendant de faire un enfant, j'ai décidé d'autoconserver mes ovocytes pour me laisser quelques années de plus, pas tellement plus, au final.
Alors, qu'est-ce qui vous a justement poussé à vous poser la question de votre taux de fertilité entre 30 et 35 ans, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille et vous êtes dit oula, il faut peut-être que j'y réfléchisse et que j'investigue de ce côté-là, que ce ne soit pas trop tard.
J'ai la chance de faire un boulot donc de journaliste spécialisé sur les femmes et j'avoue que ça m'a aidée sur cette question-là parce que comme je lis énormément de sujets, la presse féminine, enfin la presse généraliste aussi sur les femmes, j'avais vu apparaître le débat parce qu'aux États-Unis ils ont une dizaine d'années d'avance sur nous, donc il y a pas mal d'articles, il y a pas mal de débats autour de ça, donc j'avais vu apparaître cette technique, mais à l'époque, je crois que la première fois que j'ai lu un article là-dessus, j'avais 30 ans, et ça me paraissait encore loin. Mais voilà, et puis j'ai eu la chance aussi autour de moi d'avoir des femmes informées qui commençaient à faire les démarches pour elles-mêmes, et du coup, ça devenait concret. Quand des copines commencent à le faire, on se dit « mais moi aussi, en fait, j'ai le même âge, faut que je m'interroge ».
Et donc, du coup, vous avez commencé à vous questionner sur une éventuelle maternité ou pas.
Voilà, mais c'est vrai que je pense qu'on est plein de femmes à être dans la même situation. On n'a pas vraiment envie, en fait.
Non, mais c'est quoi la situation? Parce que, expliquez-nous, on est dans la même situation, c'est-à-dire?
C'est-à-dire d'approcher les 35 ans, on va dire, de... Bon, déjà, d'avoir l'air plus jeune que notre âge, on est plein aussi à avoir ce problème-là, donc on se voit pas vieillir.
Et c'est parce que vous mangez trop d'aliments avec des conservateurs.
Je sais pas. Mais du coup, et avoir un mode de vie. Moi, j'ai co-écrit un autre livre sur la génération Y, donc je connais bien cette tranche d'âge des jeunes adultes. Donc on fait tout plus tard, on travaille plus tard, on reste chez nos parents plus tard, on fait des plus longues études. Donc en fait, on vieillit plus tard, sauf qu'il y a quelque chose qui vieillit pas chez les femmes. Qui vieillit, justement, c'est les ovocytes et l'appareil reproductif. Et du coup, on s'en rend compte parfois un peu trop tard. Et c'est un énorme problème chez les femmes qui croient qu'en fait à 40 ans tout est encore possible, alors qu'en fait à 40 ans c'est un peu tard.
Alors moi j'ai prêché le... J'ai joué le poil à gratter, mais finalement, est-ce qu'avec en sachant qu'il y a une technique qui vous permet de retarder, eh ben ça va pas retarder encore plus loin votre désir d'avoir des enfants. C'est-à-dire avant on se disait bon allez, on peut aller jusqu'à 40 ans, puis maintenant on va se dire ben on va aller jusqu'à 45 ans, puis après on ira jusqu'à 50 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour faire des enfants?
Et ben justement,
un bon âge, on va dire. C'est le bon âge.
Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Même les médecins disent que oui, il y a plus de risques cardiovasculaires après 40 ans, mais ça dépend de chaque femme. En fait, ce que j'ai appris en faisant cette enquête, c'est que c'est une loterie. La grossesse est une loterie et les femmes qui peinent à avoir un enfant le savent bien. Celles qui tombent enceintes par accident le savent bien aussi. Et qu'en fait, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas si on va y arriver. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait me garantit absolument pas d'être enceinte un jour. Non, mais c'est important de le redire. C'est pas du tout une assurance bébé. C'est, on va dire, c'est une chance en plus. Mais du coup, est-ce qu'il y a un bon âge? En effet, c'est certainement mieux d'être jeune, en forme, physiquement.
C'est l'énergie.
L'énergie. Mais ensuite, il y a d'autres enjeux pour les femmes. C'est que 30 ans, 35 ans, c'est des moments très importants dans la carrière professionnelle. Et que quand on milite pour l'égalité, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de femmes de ma génération, c'est pas du tout le meilleur moment pour faire un enfant. Je crois qu'il n'y a jamais de très bon moment, en fait. Et ensuite, la question de l'âge, ce que j'ai observé, encore une fois, pour l'instant, l'autoconservation concerne une poignée de femmes, mais aucune d'entre elles n'a envie d'être mère à 50 ou 60 ans. C'est juste pour gagner quelques années, en fait, et pouvoir le faire
d'accord.
à 40, 45.
Donc, c'est pas pour repousser indéfiniment...
Je pense pas. Il y en a plein qui ne feront pas d'enfants. Enfin, plein. Une certaine partie, en tout cas, qui ne fera pas d'enfants si elle n'a pas trouvé de bon partenaire ou qu'elles n'ont pas envie de se lancer toute seule. C'est une chance en plus. Et puis, moi, en ce qui me concerne, rendez-vous dans 5 ans, quoi.
D'ailleurs, en disant ça, vous en parlez dans votre livre, de justement ce tabou des femmes qui osent maintenant dire qu'elles ne se définissent pas forcément dans la maternité. C'est-à-dire que vous citez des exemples connus. Il y a Le Mercier que vous citez, il y a Marjane
Satrapi.
Voilà.
Le Mercier, elle a toujours dit, alors là même quand elle avait avant. Donc,
Elle dit dans les interviews que ça n'a pas toujours été simple, qu'elle a hésité, mais en tout cas qu'elle est sereine avec ça.
On est mal vu. Vous savez, quand on dit oh là là, je ne veux pas d'enfant.
Mais alors justement c'est, vous parlez de ce tabou-là qui commence petit à petit à se... on ne va pas dire à s'estomper parce qu'il existe encore, mais en tout cas, on en parle plus facilement. Et d'ailleurs, même les mamans...
Dans la communauté, Nadia, c'est pas facile à dire.
Ah, attention, ne croyez pas ça. Il y a maintenant, on le parle à travers le burning, le burn-out, pardon, parental.
Parental, oui.
Voilà. C'est-à-dire que c'est une façon camouflée de dire finalement, oui, mes gosses me saoulent. J'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, je n'en peux plus. J'ai l'impression de ne faire que ça. Ça c'est le discours de beaucoup de femmes.
Oui, mais c'est pas la même chose que de dire je ne veux pas d'enfant et je l'assume.
Oui, vous voyez, mais attendez, il y a un autre discours aussi.
Pareil,
mais il y a un autre discours aussi de femmes qui vous disent voilà, bon, à y réfléchir, j'aime mes enfants. Maintenant que je les ai. Mais à y réfléchir, si j'avais pu attendre, j'aurais attendu, ou probablement même que je n'en aurais peut-être pas eu. Mais je suis rentrée dans un schéma culturel, sociétal, qui fait que on définit encore la femme à travers sa maternité.
Tout à fait. Et la norme est hyper puissante partout, et en France particulièrement, on a un pays assez nataliste. Et du coup, j'avais envie de parler de ça aussi parce que je vois bien que sur Tic Magazine, quand on écrit sur ces sujets, ça marche vachement bien. Il y a une attente en fait que les femmes prennent la parole là-dessus parce que c'est pas du tout le discours ambiant. Le discours ambiant, c'est je suis hyper heureuse avec mes gosses, alors qu'en fait, à peine on a soulevé la photo Instagram, on se rend compte que c'est hyper compliqué, que les femmes sont épuisées, qu'elles sont insatisfaites sur plein d'autres choses, qu'en effet, elles ont un peu foncé tête baissée là-dedans et que parfois c'était pas si simple. Donc c'est important de voilà d'aller gratter un peu derrière ça, de voir les questions que les femmes se posent aujourd'hui et de sortir peut-être un peu de ce schéma qui est peut-être un peu daté.
Alors pour les femmes, 35, c'est la date limite de vente.
J'espère
de conservation. Non mais pourquoi 35, ça reste le chiffre emblématique au-delà duquel il faudrait vraiment être marié, avoir eu au moins un enfant.
Alors ça, pareil, c'était un peu la découverte de mon enquête. C'est que moi, j'avais ce chiffre-là en tête parce qu'il revenait souvent dans les articles, mais je trouvais que c'était un peu pipeau, quoi. Mmh. Et en fait, les médecins sont quand même unanimes sur ce chiffre, qui est une statistique. Donc encore une fois, les statistiques, il y a des femmes qui, pour qui ce sera 30, d'autres ce sera 40. Mais en gros, à 35 ans, c'est vraiment le moment où la fertilité des femmes commence à chuter. Et il y aurait un autre palier important vers 37-38 ans. Mmh. Toujours ces fameux ovocytes, parce qu'on l'a pas encore dit, mais c'est vraiment ça, ce qu'on ne sait pas, ce qui met en péril la fertilité des femmes à partir de cet âge-là, c'est que les ovocytes, les ovules, donc, commencent à vieillir et que tout le reste peut fonctionner extrêmement bien dans l'appareil reproductif. Mais si les ovules ne marchent pas, enfin, vieillissent, et on n'arrivera plus à tomber enceinte, on fera des fausses couches à répétition, des malformations, etc. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est un enjeu énorme, la conservation des ovocytes.
Oui, parce que très peu de femmes savent que, en fait, quand elles arrivent au monde, elles arrivent avec un stock d'ovocytes. Et ce stock est en, on va
donc,
dire,
voilà,
est en
dès le départ, vous êtes né.
Exactement, avec un certain nombre d'ovocytes qui donneront donc les fameux ovules. Hein, les femmes entendent plus parler d'ovules que d'ovocytes. Et à partir du moment où elles entrent dans la puberté, et donc les premiers cycles, les premières règles, eh bien, les ovocytes commencent à se perdre lorsqu'il n'y a pas de fécondation à partir de ce moment-là. Et donc, c'est un peu comme l'histoire des neurones, et ça c'est encore à vérifier, puisque maintenant on a des théories qui nous
parce
disent que les neurones
ne sont
pas...
Parce qu'on nous a dit que les neurones, ils se continuaient à se reproduire.
Oui, voilà, mais je ne prendrai pas cet exemple, parce qu'effectivement c'est un exemple encore polémique et en recherche. Mais en revanche, à comparer avec les hommes ont toujours leurs gamètes, c'est-à-dire leurs petites graines qui se fabriquent tout au long de leur vie, contrairement aux femmes.
Alors, quand vous êtes enceinte, vous ovulez pas.
Exactement. Quand vous êtes enceinte, vous n'ovulez pas.
D'accord. Donc, si vous avez 10 grossesses, est-ce que ça décale d'autant le nombre d'ovocytes pour lesquels vous étiez programmé au départ ?
Non, parce qu'il y a un vieillissement, c'est ce qu'on disait.
Ah bon ?
Il y a un vieillissement du stock d'ovocytes. Donc,
c'est pas lié à la ménopause alors ?
Non, pas du tout.
C'est différent.
Et n'oubliez pas aussi que, et nous avons reçu d'ailleurs Michael Grimbert qui nous a détaillé tout ça, n'oubliez pas qu'il y a, à partir d'un certain âge aussi, c'est pour ça que lorsqu'on suit une femme enceinte dite grossesse tardive, donc au-delà de 37 ans, eh bien on a des situations aussi de malformations, de problématiques génétiques. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Alors après, c'est multifactoriel tout ça aussi, tout dépend des conditions de vie, de l'environnement. On ne peut pas prendre uniquement le vieillissement des ovocytes et s'arrêter là. Il faut vraiment prendre toutes les données qui sont autour de cette femme-là et donc de la raison de ce vieillissement des ovocytes.
Et des gamètes mâles aussi, parce que pour
exactement,
c'est important.
Exactement.
Il n'y a pas que les ovocytes, c'est une compatibilité, voilà, c'est multifactoriel. Comme
tout à fait, tout à fait. Donc, moi, ce qui m'a intéressé justement dans le livre de Myriam, c'est qu'elle brosse justement toutes les problématiques, et notamment la problématique sociétale, c'est-à-dire pas tant le côté médical, puisque certains médecins, notamment René Friedman que vous citez, sont plutôt pour justement l'autoconservation des ovocytes. Et on sait très bien, c'est le papa.
Le professeur Friedman, c'est le papa.
Voilà. Le papa de la PMA. Donc je pense qu'il est
PMA,
bien placé pour
la PMA, c'est...
procréation médicalement assistée. Il est bien placé pour parler de ce sujet en long, en large et en travers. Maintenant, la grande problématique qui se pose au-delà du médical, c'est une problématique plutôt sociétale et je dirais même morale. Et là, je vous laisse justement nous expliquer, vous en parlez un peu dans le livre. Hein. On est dans le mot m'échappe, les états généraux, de la bioéthique, tout à fait, dans le cadre de la loi de bioéthique 2011, il y a maintenant une discussion pour pouvoir changer certaines choses, et on questionne la population pour savoir justement s'il y a des choses qui sont encore adaptées ou pas. Qu'est-ce que pouvez nous dire de ça, vous qui avez justement interviewé pas mal de femmes, qui êtes au contact de la génération justement de ces trentenaires et quarantenaires, qui sont complètement dans le sujet.
Ce que je peux vous en dire, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est une génération de femmes qui fait tout plus tard que leur mère. Mmh. Et que du coup, il y a de plus en plus de femmes qui se retrouvent, en effet, à la trentaine bien avancée, à n'avoir pas de partenaire et pas d'enfants, mais en général des carrières assez prenantes. Donc elles sont un peu tiraillées, justement, c'est en ça que c'est une question sociétale. Elles sont un peu tiraillées entre leur destin biologique et leurs envies personnelles, professionnelles. Et puis, ça dépend pas que d'elles, voilà. Mmh. C'est justement le professeur Greenberg que j'ai interviewé aussi, qui est très pour la légalisation de l'autoconservation des ovocytes, qui me disait le facteur numéro un de décision des femmes qui font ça, c'est juste parce qu'elles n'ont pas le bon partenaire. Mmh. C'est pas d'autres motivations. Et c'est vrai que finalement, je trouve ça intéressant de rappeler que beaucoup de femmes ont encore envie de faire un enfant avec quelqu'un, contrairement à ce qu'on peut entendre, qu'on va faire des enfants comme on s'achète des sacs à main, etc. Au contraire, les femmes qui font l'autoconservation, c'est justement pour attendre de trouver la bonne personne. Voilà, donc ça montre que, on est à un moment où on est encore, je pense, imprégné de schémas traditionnels, les femmes en première ligne, et parfois on a aussi un petit peu envie d'en sortir et on ne sait pas exactement comment faire, et la société n'est pas toujours prête. Donc c'est aussi pour ça que je voulais prendre la parole, pour faire entendre une autre voix, parce que je ne suis pas du tout la seule à penser ça, et j'ai la chance de pouvoir écrire un livre vu que je suis journaliste, donc je trouvais ça important, voilà, qu'on nous donne la parole, tout simplement.
Vous êtes notre invité jusqu'à 13h, si vous voulez réagir, 01 53 48 3000, que vous soyez pour, contre ou que vous n'ayez pas d'avis, 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Émission multititre, hein, puisque Nadia, vous disiez tout à l'heure, conservation des ovocytes ou procrastination médicalement assistée. On en parle aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre de Myriam Levin, elle est journaliste, et le livre s'appelle « Et toi, tu t'y mets quand ?» chez Flammarion. Une question que vous avez peut-être vous-même, mesdames, entendue. Alors, 35 ans, mais parfois, on la pose vraiment avant, hein, la question. Dès qu'on est marié, on pose la question. Et toi, quand est-ce que tu vas avoir un enfant, d'ailleurs? C'est là où qu'il y a la pression sociale et sociétale.
Ça commence tout de suite, ouais.
Et familiale, c'est voilà, bon, tu l'as quand? Tu t'es mariée, maintenant, si au bout d'un an, t'es pas enceinte, c'est qu'il se passe quelque chose de suspect.
Ah oui, c'est ça. Il y a des questions. Alors, bizarrement, là je me remets dans le contexte franco-maghrébin. Il y a la chouma dans tout, mais alors là, il n'y a pas de chouma. C'est-à-dire que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils entrent dans l'intimité du couple en questionnant à droite à gauche. Bah alors.
T'es pas enceinte alors?
Vous attendez quoi? Vous y mettez quand? Vous les modes d'emploi? Souvent, c'est un choix du couple, ils n'ont pas envie d'en parler, ils ont envie d'attendre, ils ont envie de vivre leur vie de couple avant d'avoir des enfants. C'est de plus en plus fréquent maintenant dans la génération Y d'origine maghrébine, et du coup les parents sont un peu décontenancés, parents, grands-parents sont un peu décontenancés.
Tout en sachant qu'il y a quand même cette fameuse horloge biologique et que quand même il y a un âge limite à ne pas dépasser.
Oui, alors oui, et c'est bien pour ça que j'ai voulu en parler. C'est que, justement, je pense que beaucoup de Françaises ont pas forcément le bon chiffre, à commencer par moi, j'avais pas forcément les bons chiffres en tête. Mmh. Et on a l'impression que, voilà, jusqu'à la quarantaine, ça va le faire. Et en plus, je pense vraiment que la médiatisation de certaines grossesses tardives ne nous aide pas. Je pense à Adriana Carambeu, là, dont on a beaucoup parlé. Enfin, ça existe, mais...
Elle a quel âge, elle?
46 ans, si je dis pas de bêtises. Eva Longoria, 43 ans. Bon, il y en a plein, en fait. Monica Bellucci, Carla Bruni. Et en fait, on a l'impression que c'est possible. On se dit, oh, même si ça va être un peu dur, une petite fille, et c'est bon. Déjà, on sait pas, ces femmes-là, si elles ont pas eu recours à des dons d'ovocytes, ça, on pourra en parler aussi. Donc, en fait, qui constitue une rupture génétique quand on tombe enceinte avec l'ovocyte d'un autre. qui est en gros la seule chance d'être enceinte après 42 ans. C'est ce que disent les médecins. C'est très, très, très rare d'être enceinte naturellement après. Donc, du coup, on est dans cette espèce d'illusion qu'on va se poser la question à partir de 40 ans, alors qu'en fait, à 40 ans, c'est déjà quasi trop tard. Donc, c'est pour ça que les médecins insistent beaucoup sur ce chiffre de 35 ans et que moi aussi, forcément, vu que j'ai eu 35 ans l'année dernière, ça m'a un peu fait un électrochoc. Genre, en fait, c'est maintenant.
Alors, vous dites qu'à 35 ans, on a encore le droit d'hésiter, de savoir si on va être mère ou pas.
Ben, en fait, on me renvoie toujours sur l'idée que ce serait un choix, est-ce qu'on a le droit d'hésiter, etc. Mais ce que je dis, et c'est ça que justement j'aimerais qu'on comprenne, c'est que souvent ça n'est pas un choix. C'est-à-dire que c'est pas à vous que je vais rappeler que faut être deux pour faire un enfant, des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et que ben, tant qu'on n'a pas les gamètes mâles, on n'a pas forcément envie de faire un enfant comme on s'achèterait une maison. Je veux dire, c'est une vraie implication d'avoir un enfant, c'est une vraie responsabilité. Et c'est pas du tout un fantasme pour la plupart des femmes d'avoir un enfant toute seule.
Mais est-ce que la vraie question, c'est pas la question d'avoir des enfants, c'est une question sur le célibat. En fait, la vraie problématique de ce que vous racontez, c'est le fait de ne pas avoir trouvé le prince charmant à 35 ans.
Exactement. Et ça, voyez, les médecins sont unanimes là-dessus. La vraie question sur l'autoconservation, hein, je parle, c'est ça, c'est de ne pas avoir trouvé le bon partenaire. Le profil est toujours le même. Et c'est des femmes qui, en général, majoritairement, celles que j'ai rencontrées sont hétéros, même si je sais qu'il y a des femmes lesbiennes qui y ont recours aussi. Mais globalement, c'est des femmes finalement assez classiques, mais qui sont certainement moins classiques que d'autres parce que elles se sont peut-être plus consacrées à leur boulot, elles ont eu des ruptures amoureuses, des déceptions aussi tout simplement. À 30 ans, elles étaient en couple et elles pensaient que ce serait facile. Et puis finalement, la vie a fait que à 35 ans, bah, elles sont plus en couple et elles commencent à avoir la pression. Et c'est vrai que la fenêtre de tir est hyper étroite et qu'en plus, c'est tabou. Donc c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que ces femmes se posent beaucoup de questions, elles ont l'impression d'être hors norme et de pas coller au cadre. Et en plus, quelque part, elles n'ont pas vraiment le droit d'en parler parce que c'est mal vu justement d'être sans enfant.
Déjà célibataire. Non, à 35 ans, célibataire. Donc
en fait, elle cumule les tares sociétales actuelles, oui, c'est
voilà.
Ça.
Parce qu'en fait, il y a aussi, moi je suis très pour faire entendre ce discours, que parfois c'est bien d'être célibataire aussi. Quand on voit tous les débats qu'il y a eu sur la charge mentale l'année dernière, je peux vous dire que plus d'une fois, je suis rentrée chez moi en me disant, bah, je suis bien contente de ne pas avoir tout ça à gérer.
D'accord, mais alors, il y a les deux, hein, parce que vous dites c'est bien d'être célibataire. Je veux dire que du côté, on a des célibataires qui disent, bah, dis donc, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Donc en fait, ça dépend de quel côté on se place.
Oui, mais aussi, la norme, c'est important de le dire, la norme est ultra puissante et la norme, c'est pas être célibataire. La norme, c'est se marier, avoir des enfants et si possible, avant 30 ans. Donc en fait, dès qu'on n'est pas là-dedans, ça devient hyper compliqué. Même les gens en couple pas mariés, bon, même si maintenant c'est très banalisé, ils doivent parfois se justifier. Voilà, le mariage reste une norme aussi hyper puissante et on s'en rend même pas compte, en fait, c'est ce que vous disiez, qu'on fonce dans certains schémas sans même se poser la question et que de nombreuses femmes, en effet, quand on les interroge à 35 ans, et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir 35 ans et pas 30 ans, c'est que moi, j'entends de plus en plus, genre, j'y suis peut-être allée un peu rapidement, peut-être que j'aurais aimé faire ci et ça avant, mais je me suis même pas posé la question. Ça, les femmes, elles se le disent pas à 28, 29 ans, on coche les cases sans réfléchir, et les hommes aussi, hein, d'ailleurs. Ça concerne aussi les hommes, on se marie avec des hommes, dans le schéma hétéronormé, en tout cas. Donc, en fait, c'est aussi questionner cette norme que je voulais faire.
Et il y a aussi, à travers l'histoire du célibat, on se pose pas la question d'un homme qui est encore célibataire. On se pose la question... alors, attendez, je vous vois hocher de la tête. On se pose la question si on le voit pas qu'une femme. Parce qu'on soupçonne une homosexualité.
Si à 35 ans, vous n'êtes pas marié, je peux vous assurer qu'on va vous en présenter des cousines.
Hein. Mais les gens sont rassurés.
Non, la pression, elle est la même.
Philippe, attendez. La famille est rassurée, néanmoins, lorsqu'elle voit cet homme-là, finalement, séduire ou de temps en temps avoir des petites amies. Parce qu'en fait, c'est le spectre de l'homosexualité qui est derrière ça.
Un autre tabou.
Voilà. Pour la femme, en revanche, le souci, c'est que, et vous le citez dans le livre, hein, on a reçu aussi Olivia Gazalet qui en a parlé, elle est coincée dans un triptyque qui est la putain, la madone et la vierge. Donc du coup, si elle est maman, eh bien, on la respecte et parfois même on la touche même plus. Si elle est célibataire, bah, on la considère, elle est dans la case justement putain, c'est-à-dire, bah, finalement, ça doit être un monstre sexuel qui phagocyte tous les hommes sur son passage. Donc du coup, il y a ce fantasme encore qui circule, et ce qui fait que
la séductrice.
Oui, ouais. Ce qui fait que je veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais cette même femme célibataire, si elle attend, si elle a ce projet justement de conservation des ovocytes, de ses ovocytes, parce que pour l'instant, voilà, elle est pas en mesure d'accueillir un enfant parce que pas en couple stable en tout cas. Et bien du coup, on la soupçonne d'avoir le pouvoir complet, c'est-à-dire et le pouvoir sexuel sexuel et celui de la maternité. Donc, dans l'imaginaire collectif, ça questionne. Moi, je pense que le problème est plutôt là.
Oui, et alors, il y a une deuxième catégorie de femmes à qui ça s'adresse. Ce sont les femmes qui ont été mariées, qui ont eu des enfants, qui ont divorcé et qui se remarient.
Oui.
Et qui finalement pourraient avoir envie d'avoir des enfants avec leur deuxième mari et qui ont passé le cap des 35 ans.
Exactement. Donc du coup, elle aussi, elle commence à se poser la question. Sauf que, encore une fois, c'est bien de se poser la question vraiment avant 35 ans. C'est-à-dire que 38 ou 39 ans, ce qui est le cas par exemple souvent pour des remariages, c'est un peu tard pour autoconserver. Ils le disent, hein, les médecins, voilà, c'est un peu tard. Donc il faut avoir divorcé et être en train de se remarier avant 35 ans. Ce qui arrive, hein. D'ailleurs, j'ai une femme, elle n'avait pas encore eu d'enfant, mais elle était en train de se mettre en couple avec quelqu'un qui avait déjà des enfants et elle s'est dit, bon, on va attendre un petit peu et je vais autoconserver.
Mmh. Bon, alors vous avez pris la décision, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que c'est pas
si simple.
C'est pas si simple. C'est ça qu'on comprend dans votre livre. Donc, il y a presque un tourisme, puisque ça se fait pas en France, vous l'avez pas fait en France, hein, vous allez à Barcelone.
Voilà, moi j'ai choisi Barcelone. Il y en a qui choisissent Bruxelles, il y en a qui vont au Danemark. Bon, c'est souvent quand même Bruxelles ou Barcelone. Et souvent Barcelone, j'ai observé pour l'autoconservation des ovocytes, il y a un espèce de bouche à oreille qui se fait. Et voilà, et en effet, c'est pas si simple. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais dire quand je dis que c'est pas un caprice. Voilà, c'est un traitement médical, une petite batterie d'examen, de prise de sang.
Ça commence par ça.
Voilà,
déjà.
Pour commencer, une fois qu'on a.
On fait l'état des lieux.
Voilà, on fait l'état des lieux, qui est un peu stressant parfois.
Et surtout, qu'est-ce qu'on vérifie alors ?
On vérifie donc ce qu'on appelle la réserve ovarienne. Donc encore une fois, moi je faisais partie de ces femmes où je m'étais pas trop posé la question, et tant mieux. Alors qu'il y a des filles qui sont hyper stressées depuis longtemps, donc c'est une vraie question. Est-ce que je suis encore fertile en fait ? Donc en gros, avec une prise de sang et une échographie, on arrive à voir à peu près, même si ça ne présage de rien pour la suite, ça nous donne quand même une bonne idée de si ça vaut le coup de le faire.
Bon, voilà, ça c'est la première batterie de test.
Et ensuite, une fois qu'on s'est décidé, parce que ça, voilà, moi ça m'a pris encore un peu de temps, bon, faut aménager son emploi du temps, parce qu'en gros, il y a un cycle. Donc finalement, c'est 2 semaines. C'est pas énorme dans une vie, mais il y a 2 semaines où on va être surmédicalisé, parce que donc le premier jour des règles, il faut commencer un traitement hormonal.
Ça picouse.
Les femmes qui ont fait des FIV connaissent ça par cœur, parce qu'en fait, c'est la première partie d'une fécondation in vitro. Toutes les femmes qui font des FIV en passe par là. Et donc, ça picouse, comme vous dites, pendant...
Ah bah écoutez, j'ai pas les mots. Hein, Nadia, aidez-moi.
Oui, non mais c'est très
ça
bien.
Picouse. Hein, ça picouse. Et moi-même, pendant que je le faisais, je disais que j'avais mon rendez-vous picouse. Voilà, il faut aussi dédramatiser un peu. C'est une chance qu'on a de pouvoir le faire. Donc, enfin, je trouve, on parlera de l'argent après aussi, parce que ça coûte de l'argent. Donc voilà, donc en gros, pendant 2 semaines, 10 jours, c'est piqûre à heure fixe tous les soirs pour stimuler justement la production d'ovules. Pour, en gros, hein, je schématise, mais au lieu d'avoir un ovule qu'on a naturellement, en avoir une dizaine. Et donc voilà, et donc ça avec suivi médical, échographie, prise de sang. Moi j'avais la chance d'être suivie par un médecin qui a accepté de le faire, de me suivre ici alors que c'est pas légal, mais il y en a qui n'ont pas de médecin et qui en réfèrent directement par téléphone, ce que je faisais aussi à Barcelone. On appelle à peu près tous les jours pour donner les résultats, et c'est vrai que parfois c'est des petits moments de solitude quand on a limite, c'est pas une opératrice parce qu'elles sont médecins ou infirmières, mais qu'on a une inconnue au téléphone qui nous dit quoi faire, et notamment...
En quelle langue ?
En français, francophone.
Oui, en plus il faut avoir la picouse en espagnol.
Non, mais ils savent très bien qu'il y a beaucoup de Françaises qui viennent pour ce tourisme médical. Donc, ils ont des gens très formés et très compétents. Et voilà. Et jusqu'au jour où les piqûres ont fait effet. On a suffisamment d'ovules. Ils sont suffisamment matures. Et là, on nous dit, c'est dans les 36 heures.
Allez, hop, avion.
Avion. Hop, on prend un avion. On se retrouve à Barcelone maximum 36 heures après, au bloc opératoire. Anesthésie générale, en l'occurrence. Parfois, c'est pas anesthésie générale, c'est anesthésie locale. Mais en Espagne, enfin, là où je l'ai fait, c'était anesthésie générale. Donc voilà, il y a des femmes qui n'ont pas envie d'en passer par là. Enfin, c'est un peu effrayant. Et d'ailleurs, ils conseillent de dormir une nuit sur place, de ne pas reprendre l'avion tout de suite. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un voyage un peu pas comme les autres.
Oui, et ça demande aussi une organisation personnelle et professionnelle qui permette, dans les 36 heures, de pouvoir prendre l'avion donc, et puis de s'envoler pour la clinique à Barcelone.
Parfois, on a de la chance, ça tombe le week-end. Donc comme ça, on n'a pas besoin. Mais ben, on n'en sait rien du tout. Et puis on le sait qu'à la dernière minute, parce que vraiment, en fonction du traitement, ça peut être décalé de jour en jour. Et voilà, et donc on s'organise en général pour être disponible à la date approximative et on s'arrange et on se débrouille, comme d'habitude.
Bon, et toi tu t'y mets quand ? Peut-être que vous avez entendu cette phrase, hein, vous qui nous écoutez, je vous tutoie pas, hein. Vous pouvez réagir, intervenir, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Un livre et prétexte à notre émission d'aujourd'hui, ça s'appelle « Et toi, tu t'y mets quand ?» aux éditions Flammarion, écrit par la journaliste Myriam Levin. Et quand on a passé les 35 ans, ah ben, et qu'on n'a pas l'homme sous la main ou le mari idéal, eh bien, on peut toujours faire congeler ses ovocytes. C'est un peu ça la solution qui reste. Vous l'avez fait, vous êtes allé à Barcelone, ça coûte combien ?
Ça coûte 2 500 euros là-bas à Barcelone où je l'ai fait.
L'acte, hein.
L'acte en lui-même. Mais en effet, il y a des frais supplémentaires, bon, déjà de déplacement, d'hôtel, etc. Et en fonction de si on est suivi ou pas en France, il y a le traitement hormonal en lui-même, il coûte environ 1 000 euros. Et beaucoup de femmes doivent le payer de leur poche, sauf quand elles ont un médecin qui les suit, qui est un peu complice, on va dire, et qui leur permet de se faire, qui leur fait une ordonnance qui leur permet d'être remboursé par la Sécu.
Donc là, vous conservez combien de temps après ?
Là, c'est jusqu'à 49 ans en Espagne qu'on peut conserver.
D'accord. C'est conservé où ?
Bah là-bas, à la clinique.
D'accord.
De Barcelone.
Et le jour où on veut l'utiliser ?
Oui.
On fait comment ?
Et ben, on appelle, on dit salut, je crois que j'ai trouvé quelqu'un, ou pas d'ailleurs, il y a des femmes qui se lancent toutes seules, et on y va, et en fait on fait la deuxième partie d'une fécondation in vitro, voilà. On a mis sur pause pour les femmes qui l'ont fait, elles connaissent, elles ont la première partie où il y a la stimulation, qui est la partie la plus lourde, et une fois que c'est fait, donc nous on a un petit temps de pause, celle qu'on a autoconservé, on décongèle, et ensuite on féconde avec des gamètes mâles, ce qui produit un embryon qu'on réimplante.
Et après, après il faut suivre une FIV,
en gros. Bah, en fait, oui. Enfin, c'est juste, voilà, on réimplante un embryon et ensuite, je l'espère, on tombe enceinte.
Fatma est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue, Fatma.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Fatma.
Oui, bonjour. Je vous écoute depuis midi et vous parlez de... Parce que moi, j'ai passé 40 ans et j'avais fait 2 enfants et que les gynécologues m'ont dit que je ne peux pas faire 2 enfants parce que je n'avais plus avant... À 17 ans, j'avais fait 3. Et depuis, je suis divorcée et tout ça. Après, je suis mariée en 2008. Et après, j'ai eu 2 enfants. Et du coup, les gynécologues m'ont dit « Non, non, c'est pas possible. » Et c'est pour ça que je veux dire aux femmes que c'est possible, c'est toujours possible, en fait.
Alors oui, Fatma, bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent tomber enceinte après 40 ans. Il n'empêche que statistiquement, les grossesses, les chances d'aboutir à une grossesse est quand même réduite par rapport à une femme de 25 ans ou 30 ans. Donc oui, effectivement, on peut tomber enceinte après 40 ans.
Toujours des exemples, hein, parce qu'on est tous entourés d'exemples de femmes qui après 40 ans ont eu des enfants.
En tant que sage-femme, j'ai accouché des femmes de 43, 45 ans qui ne sont jamais passées en AMP. Hein.
Voilà. C'est beaucoup plus rare.
Voilà, mais c'est rare. Statistiquement, en fait, c'est rare. C'est-à-dire que se retrouve dans la population générale des femmes, c'est plutôt une difficulté de tomber enceinte après l'âge de 40 ans, ou alors des complications, donc des fausses couches à répétition, ou des problématiques malformatives ou génétiques. C'est la réalité.
Voilà, le chiffre, c'est 6% des femmes de... Une femme de 42 ans a 6% de chances de tomber enceinte spontanément contre 25% à 25 ans. Voilà. C'est quand même beaucoup plus faible. Et ça ne fait que chuter après.
Oui, mais bon, les gynécologues, elles m'ont fait peur, en fait. Elles m'ont fait peur. Rien pour ça. Ils disent, ah oui, ça passe 40 ans, aucune chance. L'enfant, il sera mal formé ou je sais pas. J'ai rentré chez moi, mais je dis, mais c'est pas possible parce que j'ai vu mes tantes, elles l'ont fait presque à 50 ans. Et personne ne les a dit, parce qu'eux, habitent au Maroc. Personne ne les a dit, oui, voilà. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'a travaillé ici en France. Et à chaque fois que je trouve une copine, à mon âge, elle a toujours peur de ça, parce que les médecins, ils disent non, à partir de 40 ans,
c'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Tout à fait. Et ne prenez pas l'exemple du Maroc, parce que je vous ai dit tout à l'heure, une grossesse, elle dépend aussi, c'est multifactoriel. La réussite est due à plusieurs facteurs. Si vous prenez les exemples des femmes, et c'est vrai, il y en a, notamment en milieu rural, des femmes qui ont 45 ans, voire plus, et qui tombent enceintes spontanément. Alors, il faut voir la vie qu'elles mènent. Elles ne mangent pas comme nous. Elles vivent dans la nature. Elles sont loin de tout pesticide. C'est multifactoriel. C'est des femmes qui ont un rythme de vie et une façon de vivre aussi qui favorise ça. Donc, et d'ailleurs, certains médecins le disent. Donc, on peut pas prendre des cas particuliers et les transposer ailleurs. C'est pas possible, Fatma.
Ce
qui est revenu souvent dans la bouche des médecins, c'est que en fait, il y a pas de règle dans tous les cas. Et donc, du coup, c'est ça qui est très difficile pour eux, c'est que c'est quasi impossible sur ces sujets-là de faire des statistiques tellement chaque cas est particulier.
Exactement.
Donc, en fait, c'est bien d'avoir des chiffres en tête, des stats comme je viens d'en donner, mais faut aussi se dire que tant qu'on n'essaye pas, ils me l'ont dit à chaque fois, tant que vous essayez pas d'être enceinte, vous savez pas si vous serez enceinte. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qui revient, quel que soit l'âge.
Il y a plein de femmes qui essayent et puis qui arrivent pas, et subitement, le jour où elles essayent plus, elles tombent enceintes.
Voilà. Et il y a des femmes qui, à 25 ans, n'y arrivent pas non plus. Enfin, ça reste assez mystérieux. Et ça aussi, c'était intéressant pour moi, pour ma génération, qui a l'impression de, voilà, qu'on va tout décider, tout contrôler, qu'on veut tout de suite. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit. Et ben, faire un enfant, c'est compliqué. Ça reste parfois, ça nous échappe. Et c'est très difficile à accepter parfois pour certaines femmes. Mais c'est important d'en avoir conscience, je pense, avant de se lancer. En tout cas, moi, j'ai pris conscience de ça. J'en avais pas du tout conscience avant.
Oui, parce que c'est pas forcément un enfant quand je veux, si je veux quand je veux, c'est aussi un enfant quand je veux si je peux.
Donc, exactement, et peut-être ce mois-ci je pourrais pas, mais le mois d'après, oui. Enfin, il y a tellement de facteurs en effet que faut aussi accepter de lâcher prise et qu'on va pas tout comprendre.
Alors vous, Fatma, vous avez eu des enfants à quel âge alors au final?
Au début, ma mère elle m'a forcée à se marier, j'avais les enfants à 17 ans.
Oui.
J'avais 3 enfants et après j'avais divorcé. J'ai resté presque 7 ans toute seule parce que je voulais pas se marier, parce que j'étais dégoûtée, Fred.
Et après, étiez plus dégoûtée, donc.
Et après, oui, voilà. J'ai rencontré quelqu'un et depuis 10 ans déjà, et bien on a deux enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de presque 3 ans.
Et vous les avez eu à quel âge, Fatma?
Les premiers?
Non, les deuxièmes. Les deux de la seconde union.
La fille, je l'ai en 2009, oui.
À quel âge? Et vous aviez quel âge? Vous ne voulez pas nous dire votre âge, hein?
Non, j'ai 46 ans.
Voilà. Vous l'avez eu à 46 ans ou vous avez 46 ans actuellement?
Non, j'ai 46 ans.
D'accord. Vous avez eu donc vos enfants, donc 46,
à
9.
À 37 et 40 ans, quoi.
Voilà.
Voilà. Le petit, il a presque 3 ans, je l'ai à 43 ans.
43
ans.
D'accord. Et vous l'avez eu sans problème? Vous êtes tombée enceinte facilement?
Oui, je l'ai eu sans problème, mais sauf comme je suis allée chez le médecin, je lui ai dit oui, voilà. Il m'a dit non, vous avez les ovaires fermés, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Là, il m'a raconté tout de suite, je rentrais à pleurer chez moi, je lui ai dit mais c'est pas possible du tout. Parce que, voilà. Et j'ai dit parce que mon mari, il voulait des enfants et tout. Et du coup, j'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi il me dit ça et tout. Et après, le lendemain, j'ai dit écoute, c'est comme ça, on laisse tomber le gynéco et je vis à ma façon et je continue jusqu'au jour où j'étais enceinte de 3 mois.
Voilà. Mmh. Parfois, c'est bien de faire à sa façon aussi, Fatma.
Tout à fait.
Oui. Voilà, et je voulais laisser je vais parler avec Philippe, je vais laisser juste un petit mot à l'imam Abdel Mamoun, parce que j'arrête pas de téléphoner le samedi matin, mais impossible de rentrer à la radio, en fait.
Appelez-nous tout à l'heure, on sera en direct à partir de 18h, Fatma.
Oui, mais c'est impossible, parce que comme il y a lui, il y a tout le monde sur le téléphone.
Oui, mais vous verrez, vous savez ce que vous ferez, vous direz à Mehdi ce soir que vous m'avez eu ce matin et vous passerez en priorité.
Ah, d'accord.
Spécial pistonnage, d'accord.
Merci beaucoup.
18h, et puis on est là tout le mois, Fatma, gardez l'écoute en tout cas.
Non, je vous écoute, je vous aime bien.
À bientôt, au revoir Fatma. Alors,
oui, j'ai une question. Si vous voulez récupérer vos ovocytes, ça se passe comment? Quelle est la procédure à Barcelone?
La procédure, je ne sais pas parce que donc je ne l'ai pas fait, mais de ce qu'on m'a dit, il suffit juste de prendre contact avec eux et de prendre rendez-vous. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment du cycle ce serait, mais en gros, c'est beaucoup moins lourd la deuxième partie que la première partie, puisque en fonction de si la femme le fait avec un partenaire ou pas. Là, par exemple, j'ai suivi de près quelqu'un qui est en train de le faire avec un donneur anonyme. Donc du coup, il faut aller... on choisit pas. Hein, dans la plupart des...
Si vous voulez les récupérer, mais sans fécondation, c'est-à-dire pouvoir récupérer vos ovocytes
sans
projet. Pour qu'ils ne... Je pose une question que les patientes posent souvent, parce qu'il y a justement ce fantasme de mes ovocytes vont être réutilisés par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pose la question. Elle n'est pas anodine.
Et je ne vous engueule pas, là, bien. Je vous demande ce que vous voulez en faire. faire.
Je me fais le porte-parole.
Je veux les avoir chez moi.
De certaines femmes. Non, c'est-à-dire, imaginons une femme qui finalement n'a pas de projet, n'a plus de projet d'enfant, elle est au clair avec ça, ou alors elle a passé les 49 ans,
voilà.
elle a eu 50 ans. Quid du devenir de ces ovocytes?
Ou alors, pour l'instant, dans 90% des cas, les femmes ont des enfants naturellement, après avoir congelé.
Exactement.
Donc, elles ne les utilisent pas. Il y a trois options, trois options. La première, les utiliser. La deuxième, les donner à la science pour faire des recherches sur les ovocytes. En fait, non, il y a quatre options. La troisième, les donner à une autre femme, parce que c'est un vrai sujet, le don d'ovocytes, qui est aussi débattu pendant les états généraux.
Ouais.
Et enfin, on peut les détruire aussi. On peut décider qu'on n'en fera rien, qu'on veut pas qu'ils aillent à une autre, qu'on veut pas, qu'on préfère.
D'accord. La décision ne se prend pas au moment du processus d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est évolutif, vous pouvez changer d'avis en cours de route.
J'ai un petit doute parce que moi je sais plus exactement ce que j'ai signé, parce que je sais exactement, moi je suis assez ouverte à les données éventuellement, etc. Donc j'ai été assez ouverte. Je sais plus exactement
toutes les clauses que vous avez signées.
Voilà, je sais, mais on peut y revenir. Pour l'instant, tant qu'on n'y touche pas, ils sont là-bas, ils sont conservés.
Ils vous appartiennent.
À moins 196 degrés. Et voilà.
D'accord. Vous avez moins l'impression depuis que vous les avez donnés et congelés?
Franchement, comme c'est hyper récent, je dois être honnête, ça ne change pas grand-chose pour l'instant.
J'ai la pression, vous vous dites,
J'ai lu des témoignages, alors avant de le faire, j'ai lu des témoignages d'Américaines qui disaient « Oh là là, je suis libérée, c'est génial, je vais pouvoir faire tous mes projets comme avant ». Moi, je trouve que c'est pas si simple, mais il paraît, en parlant avec des femmes qui ont quelques années plus que moi, que c'est plutôt à 40 ans, quand on n'a toujours pas de partenaire et pas d'enfant, qu'on est contente de l'avoir fait. Voilà.
D'accord. Une question, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de, alors ça c'est pas du jour au lendemain bien sûr, mais de réfléchir à changer le modèle sociétal pour pouvoir permettre aux femmes tout simplement d'intégrer leur maternité dans le fonctionnement de la société, plutôt que de devoir retarder en fait notre maternité? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il est vrai que le système est un système qui est construit pour les hommes.
Tout à fait.
La façon de vivre, donc au niveau du travail, elle est faite pour les hommes. C'est pas une attaque, c'est une réalité. C'est-à-dire que sur le marché du travail, on voit bien.
Je vais vous relaisser.
Non, mais c'est vrai. C'est une réalité. C'est pas une attaque ou quoi que ce soit. C'est le système est fait pour les hommes au niveau du travail. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de réfléchir plutôt à changer tout ça, à réadapter tout ça pour que une femme puisse avoir ses enfants et travailler et faire ses études, que finalement repousser l'âge, parce qu'à un moment donné on va être quand même de toute façon bloqué.
C'est des choix de carrière aussi.
À 50 ans, avoir son premier enfant,
il y a des choix de carrière. Il y a celles qui décident de s'investir dans leur boulot et de
Encore une fois, pas plus que les hommes, parce que attention aux fantasmes de la femme carriériste, elles sont pas plus carriéristes que les hommes, elles ont juste envie d'avoir les mêmes chances. Et pour l'instant, en effet, la société n'est pas du tout pensée pour qu'elles aient les mêmes chances, parce qu'elles sont rattrapées par leur biologie. Et en effet, il faudrait revoir complètement ça, et que la trentaine ne soit pas le moment où tout se joue à plein de niveaux, au moment où les femmes sont ralenties par leur grossesse et leur maternité.
Bien, et toi tu t'y mets quand? C'est le titre du livre que vous publiez, Myriam Levin, le sujet est neuf, on en parle, c'est chez Flammarion, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci Nadia.
Merci à Myriam et lisez-le.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.